franceinter.fr.
La question du matin, le Front National peut-il gagner du terrain dans les banlieues populaires? Le parti vient de lancer un nouveau collectif banlieue patriote et Marine Le Pen fixait la ligne fin janvier.
La banlieue est une zone en souffrance et cette souffrance ne pourra être apaisée que par son intégration claire et volontaire dans la nation. Alors je me tourne vers l'ensemble de nos compatriotes de banlieue et je leur tends la main. La France, rien que la France. Choisir une communauté, oui, mais une seule, la communauté nationale. Alors longue vie au collectif banlieue patriote.
Bonjour à tous, c'est Un jour en France jusqu'à 11h. En politique, il y a les meetings, les déclarations de candidature, les élections, et puis il y a les petites pierres que les partis posent de longs mois avant les scrutins. Depuis 2 ans, le Front National organise des collectifs de militants, coquilles plus ou moins vides, censées renforcer son implantation au sein du monde étudiant, des jeunes actifs, des enseignants ou dans le domaine de l'écologie. Le dernier né de ces collectifs s'appelle Banlieue Patriote. Objectif, renforcer l'implantation dans ces quartiers et y glaner des voix supplémentaires. Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que le FN progresse dans les banlieues populaires ? La banlieue et ses populations diverses, des quartiers pavillonnaires aux grandes tours. Reportage Aurélien Colli et invité ce matin le politologue Jérôme Fourquet qui a dirigé le livre « Karim vote à gauche, son voisin vote FN » et Nicolas Lebourg, historien, spécialiste de l'extrême droite. Et nous attendons vos interventions sur le sujet. 10h50, un temps de pochon au pavillon à Saint-Denis où l'on débat de laïcité, de lutte contre l'islamisme aussi, témoignages d'Algériens qui ont mené ce combat dans leur pays.
Ça sonne très faux hein, quand on dit républicain patriote. Eh bien nous, moi avec d'autres, nous avons été des républicains, des patriotes. On a résisté merveilleusement contre l'islamisme. Mais il se trouve quand on est arrivé, on nous disait « mais il ne faut pas transposer la France, c'est le pays des Lumières ». Eh bien, en tout cas, notre éclairage est nécessaire maintenant.
L'équipe d'Un jour en France, c'est Violaine Dallet, Chantal Le Montagnier, Anne-Cécile Perrin et Annabelle Guilleret-Chotard. À la console toute cette semaine, il y a Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet. Et tout le monde vous souhaite la bienvenue.
France Inter, Un jour en France. Bruno Duvic.
Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'Institut IFOP. Vous avez dirigé l'ouvrage coédité par la Fondation Jean Jaurès et les éditions de l'Aube, Karim vote à gauche et son voisin vote FN. Notre sujet du jour concerne l'implantation éventuelle du Front National en banlieue, ces banlieues populaires. Si on examine, Jérôme Fourquet, les derniers scrutins municipaux, régionaux, peut-on dire que le Front National progresse en banlieue ?
Alors pas de manière spectaculaire, premier point. Deuxième point, il faut bien s'accorder sur les termes oui. qu'on va utiliser. Qu'est-ce que la banlieue ? De quelle population parle-t-on ? Si on regarde historiquement, par exemple, on constatera que la Seine-Saint-Denis, un département emblématique de cette question banlieusarde, eh bien la Seine-Saint-Denis a fait pendant longtemps, jusqu'au milieu des années 90, figure de bastion du Front National. Notamment sur des problématiques liées à la confrontation avec une population issue de l'immigration, des problèmes d'insécurité également. Et néanmoins, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, c'est, hormis quelques communes ou quelques quartiers dans certaines communes, le vote FN est en fort recul. Hein. Ce qu'on essaie de montrer dans l'ouvrage, hein, c'est que la question ethnoculturelle, on va l'appeler comme ça,
oui. est... on reviendra sur la méthode.
Voilà, est quelque chose de tout à fait décisif pour comprendre comment se structurent les clivages politiques et électoraux aujourd'hui dans ces quartiers populaires. Pour parler de manière très claire, on a une population qui est importante et qui est issue de l'immigration, pour l'essentiel maghrébine ou africaine, et une autre population qui est, elle, soit non issue de l'immigration, soit issue d'une immigration européenne. Hein, ce que d'aucuns appellent parfois de manière péjorative les petits blancs, hein, terme que je n'apprécie pas beaucoup, mais qui a le mérite de dire un peu les choses. Et quand on regarde quartier par quartier, ville par ville, comment se structurent les votes, on a, notamment sur la question du Front National, des fractures très très claires, avec un certain nombre de quartiers où le vote FN est élevé, et qui sont des quartiers souvent pavillonnaires, où réside majoritairement une population non issue de l'immigration ou qui provient d'une immigration européenne, et puis d'autres quartiers où le vote FN est très très faible, hein, et qui sont souvent, hein, je vais vite, des quartiers plutôt de grands ensembles, oui, où sont surreprésentées les populations issues de l'immigration la plus récente. Et donc, tout l'enjeu du débat sur ce collectif banlieue patriote, c'est de savoir qui vise le Front National, oui, quelle est la cible électorale, s'il s'agit de renforcer le vote dans les quartiers de pavillon où la population est majoritairement non issue de l'immigration arabo-musulmane, ça a un sens, mais le vote FN est déjà, on en parlera tout à l'heure, assez élevé dans ces quartiers. S'il s'agit d'aller à la conquête de cet électorat nouveau, lié à l'histoire de l'immigration la plus récente, je crains pour le Front National que ce soit beaucoup plus compliqué.
Bonjour Nicolas Lebourg.
Bonjour.
Historien, spécialiste de l'extrême droite, chercheur à l'Observatoire des radicalités politiques, auteur notamment de Droites extrêmes en Europe avec Jean-Yves Camus, c'était aux éditions du Seuil. Vous êtes en duplex de Perpignan. Merci à nos collègues de Perpignan de nous permettre de vous entendre. Banlieue populaire, on est encore, en ce qui concerne le FN, notamment par rapport à la zone rurale, aux différentes zones rurales, dans des quartiers où le Front National a beaucoup moins percé qu'ailleurs.
Il y a un vrai paradoxe que vous évoquiez, qu'évoquait Jérôme Fourquet, c'est que lorsqu'on regarde les derniers résultats électoraux, ce qui choque le plus, c'est l'impact aujourd'hui du Front National dans la ruralité. Et ça a été très clair au régional. Oui. Or, effectivement, on a un impact dans la ruralité. Qu'est-ce qui se passe? On a le lancement d'un collectif banlieue patriote. Alors, soit ça veut dire que le Front National vit dans une espèce de bulle médiatique, un peu comme les autres partis politiques, soit ça veut dire quelque chose qu'on entendait bien, en fait, dans le propos de Marine Le Pen. Le mot banlieue est un mot qu'on utilise pour dire autre chose, et c'était ce que disait Jérôme. Le mot banlieue, on l'utilise pour parler, en fait, de manière un peu euphémisée, de cet électorat d'origine arabo-musulmane, cet électorat français issu de l'immigration. Donc c'est là qu'est tout le paradoxe. Alors bien que dans le discours du Front National, on voit tout le problème, parce que, par exemple, Julien Rochedy, en 2013, qui était le patron du Front National de la Jeunesse, un patron assez dynamique, avait réagi à ce moment-là à des mesures sociales en disant, vous voyez bien, une fois de plus, quand la gauche fait du social, c'est pour la banlieue, c'est pour l'immigration, et ce n'est pas pour la ruralité française qui est en souffrance. Mmh. Donc, on a bien cette tension permanente entre ces questions territoriales.
Alors on détaillera tout cela au fil de l'émission. Si vous souhaitez intervenir par téléphone, c'est le 01 45 24 7000. Notre courriel, c'est unjourenfrance@radiofrance.com. Et sur Twitter, le mot-clé, c'est Jour en France. h 14 sur France Inter, papa jouait du sax et voyageait à travers l'Amérique. Le gamin a capté tout ce qu'il a entendu. Voici Aaron Livingstone, alias Son Little, sur France Inter, Doctor's Inn. Way down below, these feet are trying. This mountain road just keeps on climbing. Well, I fear I may have overslept my bounds. I probably should resume my rounds now that the fever's back in town. You seem to think that I'm backsliding. This twisted road just keeps on winding. Well, I fear I may have overslept my bounds. I probably should resume my rounds now that the fever's back in town. Crying, this horny goat just keeps on whining. Well, I fear I may have overslept my bounds. I probably should resume my rounds now that the fever's back in town. Oh.
Bruno Duvic. Un jour en France, sur France Inter.
Et le Front National continue de tisser sa toile à moins d'un an et demi de la présidentielle. Cela passe par des collectifs, des groupes de militants censés nouer des liens avec différentes catégories de la population. Il y a eu le collectif pour les jeunes actifs, les enseignants, les étudiants. Voici maintenant celui consacré à la banlieue. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Du service politique de France Inter, ce collectif a été lancé fin janvier. Il s'appelle Banlieue Patriote.
Toujours le même objectif, faire tomber les digues pour aller chercher des électeurs, briser ce fameux plafond de verre qui empêche le FN de transformer ses bons scores de premier tour en victoire au deuxième tour. Alors, de quelle banlieue le collectif Banlieue Patriote parle-t-il? En réalité, Nicolas Lebourg et Jérôme Fourquet le disaient, banlieue au sens de quartier, quartier populaire où la population est majoritairement issue de l'immigration, et si on veut aller jusqu'au bout, population majoritairement acquise à la gauche, à condition qu'elle se mobilise et qu'elle aille voter.
On en reparlera de l'abstention dans ces quartiers. Banlieue Patriote, Aurélien, est confié à un jeune homme qui a 20 ans et qui s'appelle Jordan Bardella.
Il est né, il a grandi à Drancy, propulsé à la tête de la Fédération FN de Seine-Saint-Denis il y a 2 ans seulement, meilleur score FN au départemental, élu aux dernières régionales sur la liste Front National. Un militant très prometteur qui jongle entre d'un côté ses études de géographie et ses nouvelles responsabilités politiques. Je l'ai retrouvé un soir à Drancy cette semaine au siège du FN 93 où il terminait tard une réunion avec les responsables FN du département.
Et voici ce qu'on appelle ces éléments de langage, la ligne du parti sur le sujet.
Front National a toujours eu une forte présence dans les banlieues et aujourd'hui on entend effectivement pouvoir aller partout sur le territoire national. On sait très bien que dans ces quartiers, c'est une minorité qui empoisonne véritablement la vie de la majorité. Eh bien, cette majorité, on propose l'ordre républicain, pas fermer les yeux sur les trafics, sur la montée du fondamentalisme, permettre à l'État de réassurer l'ordre, d'assurer la sécurité, de démanteler les trafics, de désarmer les caves des cités, pour permettre aux familles de vivre dignement et changer le sentiment de relégation que peuvent avoir un certain nombre de nos compatriotes qui vivent dans ces cités.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez parler à des gens qui sont notamment, par exemple, dans les milieux populaires issus de l'immigration? Pour vous, il y a cette opposition, cette espèce de paradoxe naturel, il n'existe pas?
Mais le Front National est contre de principe l'immigration, c'est une réalité, les gens le savent. Maintenant, la politique de la ville, c'est près de 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans ces quartiers ces 30 dernières années. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans a aggravé une ghettoisation que ces politiques même prétendaient pourtant enrayer. Pendant des années, on a placé ces gens dans des cases, en vantant le communautarisme, en le flattant pour pouvoir se faire réélire. Et donc, nous n'irons pas, nous, faire du racolage communautaire comme peuvent le faire les partis de gauche pour, encore une fois, prendre ces populations pour de la chair à canon électoral. Le projet du Front National, il s'adresse à tous les Français, avec le critère de la carte d'identité. On ne regarde pas les communautés, parce que le but de ce collectif banlieue patriote, c'est de sortir du communautarisme. Tendre la main à tous nos compatriotes de banlieue qui se sentent pleinement Français et qui ont envie de contribuer au redressement du pays aux côtés de Marine Le Pen.
Alors, Aurélien Colli, Jordan Bardella est donc le numéro 1 de ce collectif banlieue patriote. Le bras droit s'appelle Guy Debal. Profil intéressant, c'est un ancien militant socialiste.
Oui, Guy Debal, Bruno, c'est un Français d'origine centrafricaine d'une quarantaine d'années. Il est cadre dans une entreprise, c'est un syndicaliste. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de la présidentielle, eh bien, il est révolté, il s'engage en politique, il rejoint le Parti Socialiste, il milite, il apprend, il prend des responsabilités, monte même jusqu'au niveau départemental. Il fait la campagne de François Hollande pour 2012 et puis tout s'écroule après l'élection.
Et au Parti Socialiste, il suivait notamment cette question de la politique de la ville, résumé d'un parcours du PS. OFN.
J'ai réalisé, donc, après l'élection de François Hollande, que tous les engagements qu'il avait pris sur la réorientation de la construction européenne, etc., ce n'était que du vent. Constat d'échec qui s'est formalisé avec le mariage pour tous, qui a été pour moi vraiment le déclencheur. Ça s'est conjugué à l'analyse que j'ai faite de l'extérieur à l'époque, de l'évolution du Front National. Et de l'évolution du discours de Marine Le Pen et de Florent Philippot, ils prenaient à cœur la question de la souveraineté et qu'ils avaient réellement envie de transformer leur parti. Donc voilà, j'ai pris le pari de m'engager à leur côté pour apporter ma petite touche personnelle. Comme notre but, c'est vraiment de porter des propositions alternatives aux politiques de la ville qui ont été construites par le Parti Socialiste, il est quand même un peu naturel que mon expérience de l'intérieur puisse être mise au service du Front National. Et je ne regrette pas.
Donc en fait, c'est à partir du moment où le FN prend un peu de distance avec la ligne identitaire, on va dire, hein, et passe plutôt sur une ligne souverainiste, c'est à ce moment-là en fait que vous vous retrouvez, vous, plus dans le Front National.
Oui, oui, je fais comme tout le monde. J'ai été scandalisé de la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour. Je buvais les analyses de la masse média. Si la question, c'est la question du racisme, à titre personnel, je considère aujourd'hui qu'il y a peut-être probablement même plus de racistes au Parti Socialiste qu'il peut y en avoir au Front National. Nous, on estime que ça n'a pas sa place dans le débat politique. Il y a des Français, des citoyens non français, et au Front National, c'est comme ça que ça se passe.
Et vous pensez que vous allez être bien accueilli? Je veux dire, c'est pas évident d'imaginer le Front National rentrer dans les cités. C'est difficile de rentrer.
Alors, aujourd'hui, de plus en plus de Français, comme moi, se rendent compte qu'ils ne peuvent plus naviguer entre deux cultures. Il ne s'agit pas de se renier, mais je suis français, nous sommes français. Il y a effectivement ce sentiment d'appartenance de plus en plus fort à la France. C'est leur pays, ils ont envie de changement. Et même s'ils sont séduits par le discours du Front National, je pense qu'il reste des barrières qui les empêchent de faire le premier pas. Ça vous vaut d'être mis en difficulté socialement et professionnellement, d'être attaché au Front National. Donc nous allons essayer de créer des ponts, que cette campagne de diabolisation ne puisse plus fonctionner. Ce que ces personnes-là attendent, c'est qu'on leur tende la main.
Et nous sommes toujours avec le politologue Jérôme Fourquet, qui a dirigé l'ouvrage « Karim vote à gauche et son voisin vote FN », et l'historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg. Jérôme Fourquet, Jordan Bardella en particulier, représente cette partie de la population immigrée deuxième, troisième génération, origine européenne, italienne en l'occurrence, qui en a souvent plus ou moins bavé pour s'intégrer, les parents, les grands-parents, et qui au fond a la tentation de voter FN pour fermer la porte derrière elle.
Alors c'est un peu ça effectivement, on le constate de manière très très claire dans les enquêtes d'opinion dont on dispose. La population qui déclare avoir un parent ou un grand-parent originaire d'un pays européen, aujourd'hui, en tout cas à la présidentielle de 2012, a voté un peu plus que la moyenne nationale pour le Front National, à 22% contre 18% pour Marine Le Pen. Donc c'est un phénomène assez bien établi. Jordan Bardella est un exemple militant de cela, mais on en a plein d'autres. On a des noms à consonance polonaise sur les listes du Front National dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On a des noms à consonance espagnole ou italienne dans le sud de la France ou dans le bassin métallurgique et minier de Lorraine. Donc ça, c'est une vieille histoire, et on serait tenté de dire que ce vote élevé pour le Front National dans cette population issue de l'immigration européenne, ce serait un signe paradoxal d'une intégration réussie, hein, puisqu'il voterait au même niveau que les autres, entre guillemets, voire peut-être même un peu davantage pour le Front National. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a d'autres ressorts spécifiques. Il y a ce que vous indiquiez, en disant nous on s'est intégrés, nos parents, nos grands-parents, notamment dans ces milieux souvent ouvriers. On parlait du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est le cas aussi en Seine-Saint-Denis. Nos parents n'ont pas fait de vagues, nos grands-parents non plus. Ils ont travaillé dur et aujourd'hui ils sont intégrés. Et on a un réflexe qu'on retrouve par exemple aux États-Unis également, c'est effectivement, comme vous le disiez, le dernier arrivé ferme la porte derrière lui, et il y a un ressentiment très fort vis-à-vis des autres, entre guillemets, qui ne respecterait pas les règles, ne ferait pas d'efforts et à qui tout serait dû. Hein, donc ça marche aussi très très fortement. Et quand on regarde et qu'on connaît un peu la sociologie de certaines villes, notamment en région parisienne, on a aussi par exemple un vote FN qui va être relativement élevé, je pense dans certaines communes du Val-de-Marne, dans des quartiers où il y a une forte composante de population portugaise par exemple. Hein, donc ça c'est très fort. Ce qui explique aussi ce survote dans ces populations-là, hormis leur parcours d'intégration réussi, leur ressentiment par rapport à ceux qui joueraient pas le jeu, c'est également le fait que souvent, comme on est sur une immigration encore relativement récente, on est sur des parcours d'ascension sociale qui sont pas terminés, et donc ce sont des populations qui souvent jouxtent ou vivent en contact direct dans ces communes, ces banlieues, ces fameuses banlieues, avec l'immigration la plus récente. Et ces points de friction peuvent expliquer aussi parfois le survote pour le Front National dans ces milieux-là.
Nicolas Lebourg, Jérôme Fourquet nous disait tout à l'heure, la Seine-Saint-Denis, par exemple, était présentée comme un bastion FN dans les années 80-90, puis il y a eu un reflux, et voilà, il y a peut-être une nouvelle donne en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Alors, il y a eu différentes tentatives du Front National d'aller sur ces territoires-là. Vous vous rappelez peut-être, en 2002, Jean-Marie Le Pen, qui se rend effectivement en banlieue, qui dit « On vous a parqué, le Front National, c'est le parti des patriotes ». Un discours qui n'est pas très loin de celui qu'on a entendu tout à l'heure par un militant, qui disait qu'au contraire, aujourd'hui, c'était nouveau, c'était la rupture, etc. Mmh. Jean-Marie Le Pen fait la même chose, il faut avouer, dans une campagne pas très à droite, hein, la campagne de 2007, je crois que j'ai dit 2002 par erreur, pardonnez-moi, la campagne de 2007 n'était pas très réussie. Mais on entendait aussi des choses qui étaient intéressantes dans ces militants du Front National. Parce que, il disait, le Front National peut aller partout, nous sommes dans les banlieues. On avait fait avec Jérôme Fourquet une étude sur la ville de Perpignan au municipal de 2014, qui était la seule ville de plus de 100 000 habitants qui a mis le Front National en tête au premier tour. Oui. Et quand on avait discuté avec les militants du Front National, ils nous avaient bien dit, par exemple, qu'ils n'étaient pas les tractés sur les banlieues chaudes, sur les cités chaudes de la ville, pour des questions de sécurité, et qu'au contraire, ils avaient tracté la zone pavillonnaire en face, oui. Hein, qui, elle, pouvait avoir un vote beaucoup plus réactif. Et il l'avait dit très honnêtement, on se sentait pas capable d'aller tracter là, on avait la trouille pour nous, quoi, pour dire les choses comme elles sont. Et un autre point, c'était quand même intéressant dans les témoignages que vous disiez, je pensais à un monsieur qui a été oublié forcément, mais qui s'appelle Farid Smaï, qui a fait partie de la direction du Front National.
Oui.
Et Farid Smaï, en 2002, lui aussi réagit, et il explique que les banlieues vont voter FN parce que elles vont comprendre que le Front National, son ennemi, ce sont, je cite bien évidemment, les lobbies sionistes, que ce sont les mêmes qui écrasent la Palestine, qui mettent la France dans la situation à l'est, etc., etc. Ouais. Cette ligne-là. Et il y a une réponse qui est intéressante. Fabrice Robert, qui est aujourd'hui le président du Bloc Identitaire, dans sa presse, répond « Farid Smaï ne comprend pas que l'électorat du Front National vote contre sa présence, vote contre lui. Cette ligne ne marchera pas. » Vous voyez à quel point on est dans ces ambiguïtés, dans ces tensions.
Et de ce point de vue, Nicolas Lebourg, ce collectif banlieue patriote, de votre point de vue, c'est quoi? C'est une coquille vide, parce que ces collectifs qui ont été lancés depuis 2 ans, par exemple vis-à-vis des enseignants, on avait dit à l'époque, oulala, le Front National s'implante chez les enseignants, pas du tout. Qu'en est-il en ce qui concerne ce collectif? Il peut marcher ou pas?
Alors c'est la troisième vague de grands collectifs du Front National qui vont permettre de le porter au pouvoir. Il y en a une dans les années 70, il y en a une dans les années 90 et puis il y en a une aujourd'hui. Si c'est la troisième vague, c'est bien parce que les deux vagues précédentes n'ont donné que des coquilles vides. Le Front National n'est pas un parti qui a une grande culture militante, qui n'est pas un parti qui a la culture de ce qu'on appelle les associations qu'on crée comme ça, on appelle ça les secteurs périphériques. Les trotskistes font ça très très bien, c'est pas dans la culture politique historique du Front National, donc ils ont du mal à les gérer. Vous parliez du collectif Racine, c'est un cas intéressant, parce qu'à chaque fois on nous dit, vous voyez, c'est la nouveauté, c'est la modernité. Bon, collectif Racine, c'est animé par quelqu'un qui vient de l'extrême droite radicale, donc on voit bien que même dans le courant Philippot, il y a des membres de l'extrême droite radicale, quand ils sont d'accord sur la stratégie. Et on peut pas dire qu'aujourd'hui, dans le secondaire, dans les enseignants de collège, de lycée, on rencontre assez facilement quelqu'un du collectif Racine. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 90, également, il y a une note du secrétariat général qui demande aux militants du Front National d'aller parler avec les enseignants, en disant jusque-là, on n'arrive pas à parler avec eux, mais il se passe quelque chose avec l'islam, et qui demande de parler de la laïcité, du voile, et de dire, vous voyez, le Front National, ça pourrait être le parti de la laïcité. Cette note du début des années 90, vous voyez qu'elle est assez fine au niveau stratégique, elle correspond à quelque chose qui a été bien senti, mais ça va prendre 15 ans pour que, effectivement, le thème intègre réellement le discours frontiste. Donc, il y a une grande difficulté à passer du plan sur le papier à la réalité effective.
Jérôme Fourquet, avant de retourner en reportage avec Aurélien Colli, remarque de Jean, pour qu'il y ait vote FN dans ces quartiers, il faudrait qu'il y ait un vote tout court, qui pose bien sûr la question de l'abstention.
Alors, effectivement, dans le travail qu'on a mené, ce qu'on a constaté, c'est que ces quartiers avaient très massivement voté pour François Hollande à l'élection présidentielle.
Très massivement.
Ouais. C'était déjà le cas en 2007 pour Ségolène Royal. Ouais. On pensait qu'on avait atteint un plafond. Ce plafond, il a été enfoncé. Alors, ces quartiers ont beaucoup et très massivement voté pour François Hollande et contre Nicolas Sarkozy, ouais, aussi, ne l'oublions pas. Avec un niveau d'abstention qui était néanmoins supérieur à la moyenne nationale, mais une participation relativement correcte. Tout s'effondre au municipal, où là, dans ces communes, et plus spécifiquement encore dans les quartiers où les grands ensembles sont implantés, là, il y a une abstention absolument colossale, ce qui fait qu'effectivement, il faut être très prudent quand on regarde les chiffres, parce qu'on peut avoir des scores importants, mais qui représentent en fait assez peu d'électeurs. Néanmoins, quand on fait une analyse assez fine par bureau de vote, on voit qu'on va avoir des différences de participation, parfois assez marquées, d'un quartier à un autre, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes populations.
Alors, on trouve la distinction quartier pavillonnaire, quartier voilà, alors ça
c'est, dont vous parliez. C'est un premier point, et un deuxième point qui chagrine fort le Front National, ils en ont fait l'expérience à de nombreuses reprises, notamment au départemental, c'est que on peut avoir des scores tout à fait spectaculaires au premier tour parce que leur électorat non issu de l'immigration dans ces quartiers se mobilise plus que la moyenne. Et donc, ça, en termes d'affichage, ça fait des gros scores. Mmh. Et face justement à la perspective d'une victoire du Front National, ces quartiers dont on parle depuis tout à l'heure se réveillent ou sont réveillés, c'est-à-dire qu'il y a des militants qui vont faire le tour des cages d'escalier, et on a un sursaut de participation au deuxième tour, avec du coup un vote FN qui est énormément dilué. Ce qui fait dire par exemple à quelqu'un comme Marion Maréchal-Le Pen, que dans un certain nombre de communes, aujourd'hui l'équilibre démographique est tel que, hormis une abstention massive, ils ne pourront plus mathématiquement jamais devenir gagnants dans ces territoires. Donc cette ligne-là, elle est toujours présente. Ce que disait Nicolas Lebourg est très vrai, c'est pour beaucoup d'électeurs du Front National, c'est contre la présence de ces gens-là que le vote se fait toujours et encore. Et donc, espérer pouvoir obtenir le vote de ces gens-là, entre guillemets, qu'on stigmatise ou qu'on met dans le viseur toute la journée, ça relève quand même du tour de force tout à fait exceptionnel.
Allez, Aurélien Colli, retour au reportage avec vous. Et cette question, le discours du Front National sur la banlieue, eh bien, dans quelle mesure peut-il toucher des habitants de ces quartiers issus de l'immigration arabo-musulmane ?
Eh bien, il y en a, exemple, avec Ossine, une trentaine d'années. Je l'ai rencontré à Drancy. C'est là qu'il a acheté un petit appartement. Il s'est installé avec sa femme, ses enfants. Il aspire à vivre en paix. Ossine est informaticien. Il travaille pour une grande banque. Il a rejoint le FN. Il vient de rejoindre le FN, ce qui a fait grincer des dents dans son entourage.
Et ce sont les attentats de l'année dernière qui l'ont convaincu de prendre sa carte au FN.
Ce que moi j'ai fui d'Algérie, je le retrouve maintenant en France. Je suis choqué. C'est un pays qui m'a accueilli, qui m'a tout offert. Et moi je suis à 100% avec la France. Je suis là pour l'aider à se développer. Et ce qui s'est passé avec les attentats, c'est malheureusement le résultat d'un laxisme total. Et vous imaginez, après avoir décrété l'état d'urgence, plus d'une dizaine de caches d'armes retrouvées, des dizaines de réseaux démantelés. À cause de tout ça, moi, des gens que je connais qui sont là pour étudier, pour s'installer, pour travailler, pour s'intégrer et tout, ils sont amalgamés avec des terroristes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne veulent pas s'intégrer, c'est pas normal. Et Marine Le Pen, là, de ce côté-là, ce qu'elle dit, c'est efficace. Et moi, j'aimerais bien la voir à l'œuvre.
Pourquoi pas la droite et la gauche ?
On les a essayés. J'ai vu le droite et la gauche, ils ont fait leur temps, ils ont essayé. C'est toujours la même chose. C'est toujours j'ai toujours les discours qui sont révolutionnaires. Et derrière, quand ils arrivent au pouvoir, il n'y a rien, ils reculent. Donc maintenant, moi de mon côté, j'ai adhéré au Front National parce que son discours me plaît, il me parle. On ne l'a pas vu à l'œuvre. Alors que les autres, si. Donc donnons-lui quand même une chance. Sincèrement, quand j'ai annoncé à mes amis, quand je leur ai montré ma carte du Front National, au début c'était la blague, ils en rigolaient, mais ensuite ils me disaient, oui mais quand même, on comprend, c'est vrai que Marine Le Pen a la raison sur plein de choses, mais quand même, c'est le Front National. Malheureusement, en fait, je sens le blocage du fait que Front National veut dire famille Le Pen veut dire famille de racistes et tout. Ça, c'est toujours le petit inconscient derrière qui dit, ah oui, mais quand même, c'est la famille Le Pen, c'est pas normal, alors que ça n'a pas lieu d'être, c'est dommage.
Alors il nous reste, Aurélien Colli, à entendre la voix des élus de ces quartiers populaires, et vous avez interrogé Olivier Klein, le maire socialiste de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Oui Bruno, on l'a entendu au début de l'émission dans la bouche des dirigeants de banlieue patriote. Le nouvel argumentaire, c'est la critique de la politique de la ville. Il la décrive comme une véritable machine mafieuse au service de la gauche, une machine qui lui a permis d'acheter des voix, des quartiers à coup de subventions d'associations. Ça, c'est vraiment un discours qui revient en permanence. Alors Clichy-sous-Bois, bien, c'est l'une de ces villes emblématiques de cette politique de la ville. Il y a 10 ans, en 2005, c'était le point de départ des émeutes. Aujourd'hui, c'est une ville qui s'est complètement transformée. 1 milliard d'euros de rénovation urbaine en 10 ans, des bars démolis, remplacés par des petits bâtiments, des écoles, un futur tramway avec le Grand Paris, et puis bientôt le désenclavement économique, même si évidemment tout n'est pas réglé.
Et ajoutons qu'en 1995, le FN était arrivé en tête à Clichy-sous-Bois au premier tour des municipales. Olivier Klein, le maire, fait avec vous, Aurélien, un peu de géographie électorale appliquée à sa ville et ses environs.
L'implantation sur ce territoire, malheureusement, elle est ancienne. Il y a eu un reflux très important. Et puis aujourd'hui, on a effectivement l'impression que le score du Front National sur un certain nombre d'élections remonte, avec un fort turnover des populations. Et une partie de cette population qui votait FN en 95 préférait partir. D'ailleurs, le vote du Front National en 1995 n'était pas ce vote des zones pavillonnaires, c'était plus un vote de colère, et il était plus diffus sur l'ensemble des bureaux de vote. Aujourd'hui, le vote du Front National sur un territoire comme le mien, c'est essentiellement un vote dans les deux ou trois bureaux de vote plus pavillonnaires, avec une population que je croise tous les jours. Bon, si on regarde les villes voisines, Montfermeil, Livry-Gargan, on voit quand même que ce sont des villes qui sont plutôt marqué à droite aujourd'hui, et c'est de là où le Front National fait le plus grand score.
Justement, alors, le Front National critique beaucoup tout ce qui a été fait en banlieue depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le plan Borloo, les plans de réhabilitation. Clichy-sous-Bois est l'un des territoires où, justement, il y a eu énormément d'investissements pour changer la politique de la ville.
Évidemment, ces plans étaient nécessaires et ils marquent des éléments de réussite. Mais c'est aussi... pour écouter les gens des quartiers pavillonnaires, plutôt une réaction inverse. Ils disent « vous avez trop fait pour eux ». Et ce que vous avez fait, c'est plutôt bien, mais vous mettez tout l'argent public dans ces quartiers-là et vous n'êtes pas en capacité de mettre autant pour nous.
Est-ce que vous êtes inquiet ? Le Front National tel qu'il est actuellement avec Marine Le Pen, il a beaucoup plus d'aura que le Front National d'un Jean-Marie Le Pen à l'époque.
Les idées portées s'infiltrent au-delà de son électorat, et ça, c'est inquiétant. Le plus important, c'est bien de faire comprendre à l'ensemble des Français, quelles que soient leurs origines, que le Front National est tout sauf une solution aux difficultés de ce pays, et pas en droitisant le discours. La gauche doit au contraire être sur son discours de gauche, de solidarité, d'offrir des opportunités à tout le monde. La digue, c'est le vote des quartiers populaires.
Et nous sommes toujours sur France Inter dans Un jour en France avec le politologue Jérôme Fourquet et l'historien spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg en duplex de Perpignan. Nicolas Lebourg, question sur Twitter de Guillaume. Existe-t-il une étude entre niveau de corruption et vote FN en banlieue et périurbain ?
Diantre, quelle question. Je ne crois pas. Ce qui est bien certain par rapport à ce qu'on entendait et qui coupe peut-être la question de monsieur, c'est la façon dont le Front National a pris coutume de dénoncer le lien entre clientélisme, les subventions données à des associations, et communautarisme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit désormais dans toutes les campagnes du Front National. Dans le livre de Jérôme Fourquet, on a fait un chapitre là-dessus, où on voit bien, à Marseille, c'est sur le thème « grand remplacement » que c'est présenté. Dans d'autres villes, ça va être plutôt sur le thème, au contraire, « unité républicaine », etc. Mais ça, c'est un thème devenu classique, dire « nos politiques sont corrompues et ils ne tiennent plus que en payant des clientèles communautaires ». Il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur les subventions de la loi 1901, et il y a sans doute un vrai débat là derrière ça. Et puis il y a une autre chose effectivement qu'on entendait dans vos sons là, qui est la question, la façon dont s'intègre la question religieuse à la question du territoire. Très clairement, on est passé aujourd'hui dans un débat où la notion de laïcité a changé. La laïcité, rappelons-le, à la base, c'est la question de la séparation de l'Église et de l'État. L'État, ça n'a pas à voir avec les menus des cantines scolaires. Ça n'a rien à voir avec le fait de se balader ou non avec une kippa sur la tête dans la rue. Ce dont on parle aujourd'hui quand on parle de laïcité, on parle plus de l'État, on parle de la société et de la façon dont l'État ne serait pas capable de normaliser, de normer la société. Ce qui n'était pas le but de la loi de 1905 et ce qui donc est infaisable et nous amène dans une course qui est une course infinie.
Et ça rejoint le message qui nous parvient sur le site, message de Etna. J'ai longtemps habité à la Duchère à Lyon. Nous y avons connu un melting pot qui était sympathique à vivre. Depuis 10 ans, le discours islamiste a gagné le terrain et beaucoup de femmes ont adopté le voile ou le niqab. Les vieux habitants du quartier, très ouverts autrefois, ne se sentent plus en France. Pas d'étonnement que le discours FN gagne du terrain et je le regrette profondément, nous dit-elle. Aurélien Collier, un petit mot.
Juste un commentaire, c'est que la défense aussi du droit des femmes dans ces quartiers est devenu aussi désormais un argumentaire du Front National.
Oui, Jean Fourquet.
Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Marine Le Pen a souvent coutume de dire il est difficile dans certains quartiers d'être juif, femme ou homosexuel. Elle a ressorti ça au moment des événements de Cologne sur la question du féminisme, mais on a travaillé aussi dans le cas d'un autre ouvrage sur ce qui se passait dans la population juive avec un début de vote FN, justement, toujours pareil, sur cette question des quartiers où l'idée qui prévaudrait, et elle l'avait aussi utilisée sur la question de l'homosexualité, Nicolas Lebourg parlait de la normalisation, le fait d'imposer un certain nombre de normes dans la société. Pour beaucoup de Français, notamment des personnes qui peuvent être juives, homosexuelles, ou des femmes ou d'autres, le témoignage de la Duchère est intéressant de ce point de vue, on a dans un certain nombre de quartiers un climat, une ambiance qui s'est progressivement modifiée et toute une série de règles non écrites sur comment on s'adresse à quelqu'un dans la rue, comment on est habillé, comment on doit manger, etc., etc. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, n'est plus conforme à ce qu'on faisait historiquement. Et donc, du coup, vous avez un glissement très clair dans les slogans du Front National, qui s'adaptent à cette nouvelle réalité. Dans les années 80, c'est « quand nous arriverons, ils repartiront ». Hein, donc, on comprend bien de qui il s'agit. Aujourd'hui, même l'électorat du Front National a compris que « ils », entre guillemets, ne repartiraient pas puisqu'ils sont français et parfois même depuis deux ou trois générations. La question qui se pose alors, c'est celle de la cohabitation et la question de savoir qui fixe la règle, qui fixe la norme. Et le slogan du coup qui correspond à ça, aujourd'hui pour le Front National, que vous entendez dans tous ces meetings, c'est « on est chez nous ». Et « on est chez nous », ça veut dire que chez nous, c'est nous qui faisons encore la loi, c'est nous qui faisons la règle. Et pour beaucoup d'habitants de ces quartiers, nous ne sommes plus chez nous dans ces endroits. Ça vaut aussi, ce qui a été rappelé tout à l'heure, pour des Français qui sont arrivés d'Algérie depuis assez peu de temps, dans les années 90, et qui ont fui la montée du FIS, des islamistes, et la guerre civile en Algérie. Et qui, de leur point de vue, constatent de manière effarée et très inquiète que le climat annonciateur de cette violence islamiste et radicale, eh bien, ils en redécouvrent un certain nombre de signes dans les communes de banlieue dans lesquelles ils habitent aujourd'hui. Alors, pour les plus radicaux, on l'a entendu, ça peut aller jusqu'à prendre sa carte au Front National. Pour d'autres, c'est une véritable interpellation vis-à-vis de la République. Et on retrouve cette question de la laïcité en disant « protégez-nous parce que on a vécu ça ». Et dans certains quartiers, c'est ce qu'il est en train de se passer. C'est bien évidemment du velours pour le Front National.
Ça rejoint la remarque d'Alain au Standard. Ma meilleure amie est d'origine maghrébine. Elle comprend les gens qui votent FN car tous les jours, elle voit les mêmes fouteurs de merde. Et elle se sent stigmatisée à cause de ces fouteurs de merde, nous dit Alain. Nicolas Lebourg, quels arguments? On a compris dans ce que disait Jérôme Fourquet que ces quartiers de grands ensembles votent majoritairement et même très majoritairement à gauche ou s'abstiennent. Tiennent. Quels arguments du Front National, néanmoins, peuvent faire mouche auprès d'eux?
Eh bien, exactement ce qu'on vient d'entendre, si vous venez de citer. Durant la société industrielle, les gens se politisaient d'une manière beaucoup plus doctrinale qu'aujourd'hui, beaucoup plus idéologique qu'aujourd'hui. Tout ce qu'on vient d'entendre que vous citiez, c'est des gens qui vous disent « dans ma vie quotidienne ». Aujourd'hui, la politisation, elle se fait par votre expérience quotidienne. La femme qui dit « c'est toujours les mêmes que je vois mettre le désordre ». Alors, le Front National, justement, il répond à ça. Il répond à l'expérience du quotidien en lui donnant un sens. Ça va être l'affiche qu'on a vu il y a quelques semaines, choisis ta banlieue, avec d'un côté une jolie jeune femme avec un bonnet rouge et du bleu-blanc-rouge sur les joues, et de l'autre côté, une femme voilée dont on voit que les yeux, le reste, un grand voile noir. Et donc, c'est dire, vous voyez, votre expérience du quotidien, en fait, c'est un choix politique majeur qui se présente à nous, et le Front National met en vis-à-vis deux choses, avec cette expérience du quotidien. D'un côté, ce qui serait une orientalisation de la France, hein, le discours du Front National présente tout ce qui a trait à la globalisation démographique, avec les flux migratoires, globalisation économique comme étant une orientalisation. Monsieur Ménard qui parle des kebabs, c'était un excellent exemple aussi. Et de l'autre côté, il y aurait un seul choix qui sera au contraire le choix d'une fermeture de la nation pour arriver à redevenir une unité, à retrouver un pays où les gens se réunissent culturellement, socialement, etc. C'est ce discours-là qui est très fort parce qu'il part de l'expérience du quotidien pour aboutir à une vision du monde.
Jérôme Fourquet, il nous reste 30 secondes pour dire que ce qui peut influencer le vote, c'est bien les questions effectivement dans ces quartiers, les questions de sécurité, de chômage, les questions quotidiennes. On a pu dire au moment des municipales que la question du mariage pour tous, de la théorie du genre avait joué. Oui, mais à la marge.
Ça joue mais à la marge sur la frange de la population qui va être la plus religieuse. Et là aussi, quand on parle banlieue, c'est pour parler, comme disait Nicolas Lebourg, immigration. Quand on parle immigration, on parle maghrébin. Et quand on parle maghrébin, on parle islam. Or, vous constaterez que beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration récente ne sont pas forcément très religieuses. Et donc, ces questions, ces considérations religieuses ou philosophiques, ne les ont pas forcément touchées. Ça a joué à la marge. Ce qui a beaucoup joué, c'est que dans ces quartiers, beaucoup avaient cru au changement, c'est maintenant,
oui.
Et que deux ans après, le changement, on n'en a pas. La politique de la ville, certes, on a vu à Clichy, il y a eu des efforts, mais le tramway n'est toujours pas là, on n'a toujours pas de job. Certains vous disent, on a refait les cages d'escalier, on a même refait les immeubles, mais la misère, elle est toujours là, les gens sont toujours là. Hein. Et puis, pour ce qui est du Front National, dans les entretiens qu'on avait pu mener, on voyait très bien ce qu'indiquaient vos interviewés, la question du trafic de drogue, la question de l'insécurité, d'une immigration encore plus récente. Oui. Travaillait-ce une partie de cet électorat maghrébin? Et puis au final, ils disaient, mais quand même, on ne peut pas voter pour eux parce qu'on sera toujours à leurs yeux des Français de papier.
Merci à tous les deux, Nicolas Lebourg, Jérôme Fourquet, d'être venus ce matin au micro de France Inter. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Karim vote à gauche, son voisin vote FN, coédité par la Fondation Jean Jaurès et les éditions de l'Aube. 10h47. C'est l'heure de French Touch, un peu de France parcouru en roue libre. Le vin français continue de perdre du terrain à l'étranger. La Fédération française des vins et spiritueux vient de publier ses chiffres pour l'année 2015. Au premier regard, tout va très bien. Exportation pour près de 12 milliards d'euros. Deuxième secteur derrière l'aéronautique. Les bouteilles expédiées à l'étranger représentent l'équivalent de 128 Airbus, peut-on lire dans les Échos qui détaillent toutes les données ce matin. Mais le succès repose d'abord sur deux types de vins. Champagne, cognac. 70% des hausses des ventes à l'étranger, aux États-Unis et en Chine en particulier. Pour les autres, le rouge, le rosé, le blanc, sans bulle, c'est une autre affaire. Baisse des exportations de plus de 5%. Offre insuffisante face à la déferlante des vins chiliens, argentins, espagnols, italiens. Particulièrement en baisse, les vins dits de cépage, plus simples, moins coûteux que les AOC. La France décroche dans ce domaine. Alors question, faut-il replanter, faire davantage de volume? Question d'autant plus sensible que les viticulteurs ont laissé de côté ce type de produit parce qu'il n'était pas rentable pour eux. Alerte sur les exportations de vin français, c'est à lire ce matin, notamment dans les Échos. Hervé Pochon dans un instant. Pour l'instant, à 10h48, le grand succès du groupe The Connells, 74-75.
Sorry, yeah.
The Connells sur France Inter, 74-75 en anglais dans le texte.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour Hervé Pochon.
Bonjour Bruno Duvic, bonjour à tous.
Toujours à Saint-Denis avec des questions qui croisent un peu celles qu'on a évoquées dans l'émission.
Ah bah oui, ça, parfois c'est comme ça, il y a une osmose entre un jour
on
en France
pas
et un temps de pochon. Et alors là, donc, nous sommes toujours dans ce café qui s'appelle Le Pavillon, au premier étage, et je parle doucement parce qu'il y a une femme, on est là parce qu'il y a le livre de Djemila Benhabib qui s'intitule Après Charlie aux éditions H&O, et il y a une femme qui est au micro, qui a quitté l'Algérie en 2000.
Moi, je ne vais pas être très longue. Je voulais tout juste saluer mes deux confrères. Un que j'ai, avec qui, on peut dire milité. On a résisté parce que la presse était un véritable rempart contre l'islamisme. Et aussi en tant que, comment dirais-je, républicain, parce que ça sonne très faux hein, quand on dit républicain, patriote. Eh bien, nous, moi, avec d'autres, nous avons été des républicains. Des patriotes. On a résisté merveilleusement contre l'islamisme. Mais il se trouve, quand on est arrivé, c'est par charrette, hein. Certains sont arrivés en 94, moi je suis arrivé en 2000, et quand j'ai essayé de parler, dans des endroits très sympathiques, mais très fermés, comme dans la clandestinité, on nous disait, mais faut pas transposer. Faut pas transposer la France. C'est le pays des Lumières. C'est ça. Eh bien, en tout cas, notre éclairage est nécessaire maintenant. Parce que nous avons subi, nous avons résisté, on n'a pas fait semblant de résister, il faut le dire, et avec courage. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus et continuent à nous ouvrir comme ça des portes et aussi des tribunes afin qu'on dise ce que nous avons subi et aussi dire qu'il faut arrêter cette déferlante. Merci.
Bienvenue à tous au Pavillon à Saint-Denis, où l'Observatoire de la laïcité a invité Djemila Benhabib à une rencontre. Et votre prénom ?
Moi, j'ai un prénom, un nom barbare, mais je vais essayer de le dire en arabe et en français. Je m'appelle Hurriya Sayhi. Hurriya qui veut dire liberté et Sayhi Hurriya en français. Quand on m'appelle, j'ai du mal à répondre. Voilà, je suis venue, moi, c'est à la rencontre de l'Algérie un peu. À la rencontre de deux amis, parce que le Djemila, moi j'ai connu son père, on a milité ensemble en Algérie, pour la démocratie, la séparation du religieux et du politique, et Sifawi qui était un collègue, il vous l'a dit tout à l'heure, donc c'était à la rencontre.
Il a même dit que c'est vous qui l'aviez consolé, si je puis dire, soutenu au moment des attentats qu'il a vécu en Algérie.
Il a un petit peu peut-être embelli pour dire que j'étais plus forte parce que tous disaient que j'étais plus forte que certains. J'avais des larmes aux yeux, mais j'ai vu ce carnage. Et j'ai essayé de consoler les copains parce que moi, je suis arrivée 10 minutes dans la malle de la voiture de la télévision algérienne. Il se trouve que j'avais rendez-vous avec un collègue avec qui je venais de me réconcilier. C'était un journaliste qui, c'était le critique de la télévision, celui qui faisait donc des papiers sur les émissions. Et moi, même mon émission sur la censure venait d'être censurée. Et on s'est réconciliés. J'arrive 10 minutes après. Il s'appelle Allaoua Boujadi. Et on ne l'a pas retrouvé. Il était en petit lambeau. Et Sifawi était en larmes. Il pleurait, ses lunettes de travers, il avait des dépôts de plâtre et de verre sur la tête. Et voilà, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai consolé. Mais peut-on consoler un journaliste qui a vu l'horreur ? Je ne sais pas. Il se trouve que moi, j'étais journaliste et réalisatrice à la télévision algérienne. Je ne parlais que de la beauté, je parlais du patrimoine, je parlais de la protection du patrimoine national et je me suis retrouvée malgré moi, parce que la mort, oui, c'est ça, c'est la mort, la guerre s'est invitée chez moi. Et je me suis retrouvée, comme ce que vous appelez ici reporter de guerre, moi je dirais reporter sur le terrain, à parler de la mort, mais aussi parler de la résistance. Il faudrait qu'on se donne les moyens pour que des gens comme Sifawi, comme Djemila, comme tant d'autres puissent réellement s'exprimer, dire que l'islamisme est un danger et qu'il faut le combattre non pas seulement militairement, mais il faut le combattre idéologiquement.
Mais alors concrètement, vous qui avez vécu ce que vous avez vécu, cette montée de l'intégrisme en Algérie, cette montée de l'islamisme politique en Algérie, quand vous voyez que c'est en train de se reproduire en France, vous vous dites quoi, qu'il n'y a plus rien à faire ?
Mais si, il y a à faire. Il ne faut pas faire peur aux gens, leur dire une chose, c'est eux qui nous ont déclaré la guerre, ce n'est pas nous qui déclarons la guerre. Nous devons défendre les valeurs de la République. Il faut faire barrage surtout au communautarisme.
Combien de morts il y a eu en Algérie à cause de l'islamisme politique ?
Ben écoutez, officiellement on parle de 200 000 et moi j'ai l'impression qu'il y en a plus, peut-être 400 000. Parce que bon, il y a eu des charniers qui ont été découverts bien après. Donc il y a eu énormément, c'est un carnage. C'était tous les jours des attentats, tous les jours des explosions, tous les jours des appels à la mort, tous les jours des communiqués qui sont collés, des appels au meurtre. Enfin, c'est une situation.
Vous espérez retourner en Algérie un jour ?
Écoutez, moi je suis toujours en Algérie. Je le suis dans ma tête, dans ma souffrance et dans ma résistance. D'ailleurs, le livre que j'ai terminé, je rends hommage à ceux qui continuent à résister, ceux qui ont résisté. Je vais en Algérie, le film sur lequel je travaille, je rends hommage d'ailleurs. Allez, je vais vous faire des confidences. C'est une Française qui est née française, qui a un nom français, Raymond Péchard, qui a sur le terrain, démontrer qu'elle était algérienne de cœur. Et elle a pris la route du maquis, elle est morte. C'est l'unique martyr de la révolution algérienne. C'est pour vous dire que l'histoire de la France et de l'Algérie, il y a beaucoup d'amour, il y a de la haine. Mais nous sommes, nous aussi, des républicains. Et on voit aussi, on regarde dans la même direction, pas simplement la direction de la France, mais on regarde. On a envie aussi que l'Algérie soit un pays réellement démocratique, républicain, qu'il y ait cette séparation du religieux et du politique et pour qu'on ne tue plus comme on le fait. Voilà.
Donc, Orga Saï, si on veut en savoir plus sur votre histoire et ce qui vous intéresse, il y a votre livre qui s'intitule « Voix sans voile » aux éditions Helvétius.
Un temps de pochon, c'est pas fini pour aujourd'hui, on se retrouvera demain.
Merci Hervé Pochon, à demain.
À demain.